Bienvenue dans votre bulletin géopolitique pour la semaine du 28 août au 3 septembre 2025. C'est le premier bulletin du mois, donc il est en accès libre. Nous commençons avec le Moyen-Orient. Un document confidentiel publié dimanche par le Washington Post expose le projet de Donald Trump pour Gaza qui consisterait à administrer l'enclave palestinienne par les États-Unis pendant 10 ans, déplacer sa population et transformer le territoire en un hub touristique et technologique. Ce plan, évoqué depuis février, s'apparente finalement à un projet de nettoyage ethnique, selon ses détracteurs, puisque selon le document, environ 25% des 2 millions de Gazaouis accepteraient de quitter volontairement l'enclave lors de sa reconstruction, et 75% d'entre eux ne reviendraient jamais. Ce qui représenterait 375 000 personnes, dans l'ordre d'après ce que je comprends, c'est les 375 000 des 25 000, hein, bien sûr, puisque des 25%, puisque 25% ça représente 400 000 habitants, un peu plus de 400 000 habitants, puisqu'il y a 2 millions de Gazaouis. Les partants, cependant, recevraient 5 000 $ en liquide, une subvention pour 4 ans de loyer et un an de nourriture. Les autres seraient relogés dans des zones sécurisées à Gaza pendant la reconstruction. Les propriétaires recevraient des jetons numériques échangeables contre un appartement dans de nouvelles villes intelligentes ou pour financer une vie ailleurs. Le coût d'un départ est estimé à 23 000 $ par habitant, moins élevé que le maintien dans les zones sécurisées. Gaza serait placé sous la tutelle d'un organisme américain, le Great Trust, Gaza Reconstruction Economic Acceleration and Transformation Trust. Vous savez que les Américains aiment beaucoup, souvent ils partent sur le mot qu'ils veulent utiliser et ils en font un acronyme. C'est comme pour le Patriot Act. Et donc là, avec Great Trust, on est sur du vocable trumpien assez typique. Administration donc qui durerait au moins 10 ans avec un transfert à une autorité palestinienne déradicalisée, entre guillemets. Israël conserverait le contrôle sécuritaire avec l'appui de sociétés militaires privées occidentales et de ressortissants étrangers avant une transition vers une police locale. Alors, nettoyage ethnique uniquement partiellement, puisqu'il semble qu'il n'y aurait qu'une partie de la population qui partirait, 25%. Le reste serait maintenu et éventuellement même une partie de cette population qui serait partie pourrait revenir. Donc j'ignore si le but est effectivement de mettre cette population dehors ou juste d'escompter que probablement il y en aurait les trois quarts qui, une fois installés ailleurs, ne reviendraient pas. Ça, c'est la question. Surtout qu'il n'est pas dit combien de temps le chantier durerait. Est-ce que c'est les 10 ans que dure le projet? Je ne sais pas. En tout cas, il y a quand même un petit côté Adrien 2.0, hein, puisqu'on a envie de dire que dans cette région, il se passe un petit peu toujours la même chose à 2000 ans d'intervalle. Que les Palestiniens aujourd'hui, c'est les Juifs d'il y a 2000 ans. Hein, les Juifs d'il y a 2000 ans étaient dans le même rapport. Hein, je vous invite à regarder Masada, l'excellente mini-série avec Peter O'Toole, qui montre justement la fin de la guerre des Juifs, la première guerre des Juifs contre Rome en 72, puisque c'est au moment de Masada, c'est après la guerre judéo-romaine et la destruction du Temple. Et en fait, vous avez percevé que le problème juif à l'époque, c'était le problème palestinien aujourd'hui, quoi. Et sauf qu'aujourd'hui, c'est les Romains, c'est les Juifs, quoi. Et puis les Palestiniens, ils sont. Et donc, on se retrouve finalement avec des Américains qui sont malgré tout la tête de l'Empire romain. Hein, Israël, c'est juste leur procurateur local, à devoir régler les mêmes problèmes et de la même façon, c'est-à-dire avec des expulsions, des reconstructions, on renomme, etc. C'est extrêmement intéressant à observer sur un plan historionomique. Au Liban, Israël continue à mener quotidiennement des opérations ciblant les infrastructures ou les figures du Hezbollah, en dépit de la trêve prononcée, et tout ça dans un contexte où, je le rappelle, le Hezbollah refuse son désarmement. En dernier lieu, dimanche 31 août, l'aviation israélienne a effectué 12 frappes dans le sud du Liban. De leur côté, Israël et la Syrie négocient un accord sécuritaire visant à établir, semble-t-il, une zone démilitarisée dans le sud de la Syrie, près de la frontière israélienne, et notamment du côté druze. Les discussions qui auraient été entamées à Paris en juillet et août 2025 pourraient aboutir d'ici fin septembre, selon les responsables israéliens. Donc, ça ira assez vite. Cependant, des doutes persistent face à l'intensification des frappes israéliennes en Syrie. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, exige une zone délimitarisée qui s'étendrait du Golan, conquis en 1967 et annexé en 1981, jusqu'au sud de Damas, donc ça fait quand même un gros couloir, et en plus un couloir humanitaire pour acheminer matériaux de construction, aide alimentaire et médicale. Cet accord viserait notamment donc à protéger la communauté druze présente au Liban, en Syrie et à Israël, dont pardon, en Syrie et oui, en Syrie et en Israël, car les Druzes effectuent leur service militaire en Israël, contrairement aux Arabes israéliens. Donc, une proximité des Juifs envers avec de toute façon toutes les minorités locales, hein, et notamment cette sympathie tend désormais à s'étendre en direction des Kurdes, qui pourraient devenir les prochains, notamment les Kurdes du Rojava, les prochains à bénéficier peut-être de la protection israélienne si jamais les Turcs d'Erdogan essayaient de les soumettre un petit peu trop fort. Vous savez qu'il y a aussi des Bédouins de Syrie qui appellent à la mobilisation générale contre les Kurdes, j'en ai parlé dans les précédents bulletins. Et donc pour eux aussi, Israël pourrait jouer la division et l'éclatement de la Syrie en plus de cette éventuelle zone démilitarisée. Mercredi, la FINUL a qualifié une attaque israélienne contre son personnel d'une des plus graves depuis le cessez-le-feu de novembre 2024, qui avait mis fin au conflit entre Israël et le Hezbollah. Israël n'a pas encore réagi à cette déclaration. Jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé le mandat de la force internationale jusqu'en 2027, date prévue pour son retrait, cependant sous l'influence des États-Unis et d'Israël. Samedi 30 août, les rebelles houthis du Yémen ont annoncé la mort de leur premier ministre lors des frappes israéliennes qui ont été menées jeudi dernier sur Sanaa, marquant la perte du plus haut responsable tué dans ces raids depuis le début de la guerre à Gaza. Selon un communiqué de la présidence houthi, relayé par leur chaîne Al-Masira, plusieurs ministres ont également péri dans ces attaques qui visaient une réunion gouvernementale. Depuis des mois, vous le savez, Israël frappe le Yémen en réponse aux tirs de missiles et drones houthis qui sont conduits contre son territoire et qui sont en fait une extension de la guerre par proxy qui se fait avec l'Iran en réalité. On part en Amérique du Sud où lundi, Nicolas Maduro, le leader vénézuélien allié de la Russie et de la Chine, a averti qu'il proclamerait une république en armes constitutionnelle en cas d'attaque américaine contre le Venezuela. Il a résumé, 8 navires militaires avec 1200 missiles et un sous-marin nucléaire visent le Venezuela. Ils cherchent à exercer une pression militaire maximale, mais nous sommes au niveau maximal de préparation pour défendre le Venezuela, a-t-il déclaré, qualifiant ce déploiement militaire américain de plus grande menace militaire contre le pays en un siècle. Et ce mercredi, justement, les forces américaines ont ciblé un bateau transportant des stupéfiants en provenance du Venezuela, tuant 11 narcoterroristes selon Donald Trump, qui a justifié le déploiement des navires de guerre pour lutter contre le narcotrafic. Washington accuse Maduro de diriger un réseau de trafic de drogue. Sur X, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a précisé que l'opération menée dans le sud des Caraïbes visait un navire ayant quitté le Venezuela. Le président nicaraguayen Daniel Ortega a dénoncé ce déploiement comme une tentative d'intimidation et de renversement de gouvernement. À Miami, avant un déplacement au Mexique, Rubio a réaffirmé la volonté de Trump d'utiliser toute la puissance des États-Unis pour éliminer les cartels. Ce mardi, au Brésil, débutait le procès de l'ancien président Jair Bolsonaro devant la Cour suprême pour tentative de coup d'État, aux côtés de 7 co-accusés, dont d'anciens ministres et au grade des militaires. Le procès, qui devrait se prolonger jusqu'au 12 septembre, expose l'ancien dirigeant, déjà inéligible, à une peine qui pourrait dépasser 40 ans de prison. Malgré les pressions de Donald Trump, notamment les droits de douane, la Cour suprême déterminera son sort dans cette affaire inédite pour un ancien chef d'État brésilien. En Argentine, mercredi 27 août, Javier Milei, en campagne à Lomas de Zamora, bastion péroniste, près de Buenos Aires, péronistes donc ce sont ses adversaires politiques, a été visé par des jets de pierre et des insultes après la révélation d'enregistrements audio jugés compromettants. Ces enregistrements impliquent Diego Spagnuolo, ex-directeur de l'Agence nationale pour les personnes handicapées, qui évoquerait des pots de vin versés par une entreprise pharmaceutique à des membres de l'administration présidentielle. Une enquête judiciaire a été ouverte. Dans les audios, Karina Milei, sœur du président, est présentée comme bénéficiaire de 3% des fonds versés par l'État à Suizo Argentina pour des médicaments destinés à des programmes d'aide aux malades chroniques. Spagnuolo affirme que tous les proches de Milei, y compris sa sœur, sont impliqués dans les demandes d'argent aux prestataires, ajoutant avoir averti le président « Javi, tu sais qu'il vole, ta sœur vole, ne fais pas l'idiot ». Il mentionne également une femme d'affaires liée à la famille Menem qui empocherait 500 000 dollars par mois via ses détournements. Le même jour, une plainte a donc été déposée par Gregorio Dalbon, avocat de l'ex-présidente Cristina Fernández de Kirchner, actuellement en résidence surveillée après une condamnation à 6 ans de prison pour association illicite et fraude, accusation qu'elle conteste. Face aux journalistes, Milei a dénoncé les allégations de Spagnuolo comme mensongères, promettant de poursuivre en justice pour prouver son innocence. Alors, on n'a pas envie de douter de Javier Milei, naturellement, en l'occurrence c'est sa sœur, donc c'est difficile à savoir. Maintenant, il faut se rendre compte qu'on est en Argentine, que Milei, en particulier avec cette campagne pour législative, menace encore plus le système en place, qu'il y a tout un tas de gens qui ont un grand intérêt à le faire tomber de la manière les plus sales possible, et qu'en plus, imaginez s'il se passait la même chose en France, que vous ayez quelqu'un comme ça. Vous voyez d'ailleurs, vous savez, quand vous avez un président qui n'est pas du bord majoritaire des médias mainstream, vous savez le genre de cabale qui peuvent être conduites. Donc, dans le contexte, et sachant de qui vient la plainte en plus, voilà, méfiance sur tout ceci, que nos médias, naturellement, reçoivent avec énormément de complaisance, parce qu'au fond, tout le monde a envie qu'il y ait quelque chose à reprocher à Milei, n'est-ce pas, qui jusqu'ici réussit trop bien. Mais on ne veut pas non plus l'absoudre, on attend le résultat de l'enquête. Une nouvelle attaque massive russe impliquant 502 drones et 24 missiles a visé principalement l'ouest de l'Ukraine la nuit dernière, causant des dégâts et plusieurs blessés, selon l'armée de l'air ukrainienne. Frappes qui sont une démonstration de force de Poutine pour cacher son impunité, d'après Zelensky. Et je parlerai de la situation exacte de Trump et de Poutine tout à l'heure, quand on parlera de la Chine et de la parade en Chine. Pour l'instant, on reste en Europe avec la fin partielle du regroupement familial au Royaume-Uni. Le gouvernement travailliste du Royaume-Uni a annoncé la suspension d'un dispositif qui permet aux réfugiés enregistrés de faire venir des membres de leur famille dans le pays face à la montée en flèche du soutien à l'extrême droite dans les sondages, hein, le mouvement des drapeaux, etc. Le pouvoir travailliste commence à paniquer un petit peu. La ministre britannique de l'Intérieur, Yvette Cooper, a annoncé lundi qu'elle suspendait temporairement les nouvelles demandes de regroupement familial des réfugiés le temps que le gouvernement élabore de nouvelles règles qui devraient être introduites d'ici le printemps prochain. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a proposé un projet de loi pour recruter 100 000 réservistes volontaires d'ici 2030, avec la possibilité, surtout pour le Bundestag, de rétablir le service militaire obligatoire en cas de menace par une simple modification législative. Donc en fait, c'est ça, vous déposez un projet de loi et vous faites en sorte que le truc soit en place pour demander que des volontaires, mais que ce soit facile à modifier en urgence pour que ce soit obligatoire. L'objectif est de porter les effectifs de l'armée allemande à environ 460 000 soldats, incluant la troupe active et la réserve, d'ici 2030. Le ministre vise également à augmenter le nombre de soldats professionnels et contractuels à au moins 260 000 d'ici 2035. Allemagne toujours, à l'issue du Conseil des ministres franco-allemands tenu vendredi à Toulon, la France et l'Allemagne ont adopté le principe de neutralité technologique en matière d'énergie. Ce qui est une bonne nouvelle, hein, parce qu'on a beaucoup dit que Macron, et j'ai rien vu d'extrêmement net là-dessus, mais qu'en gros les Allemands demandaient à ce que on renforce le parapluie nucléaire sur eux, etc. Donc je ne sais pas quelles sont les concessions qui leur ont été faites, mais ça, la neutralité technologique, c'est extrêmement important. C'est une avancée majeure, a déclaré Macron en conférence de presse, et là-dessus il a raison, puisque concrètement, ça veut dire que les énergies décarbonées, qu'il s'agisse de renouvelables ou du nucléaire, seront désormais traitées sur un pied d'égalité par les deux pays. Donc il n'y aura plus d'avantage qui sera donné aux énergies renouvelables sur le nucléaire, et ça c'était un combat français depuis longtemps, donc c'est une bonne nouvelle. Chose importante aussi dans l'évolution de l'Union européenne, puisque vous savez qu'il y a de l'agitation au niveau français, mais les choses semblent se mettre en place aussi pour être bien agitées au niveau européen. Jeudi, la Commission européenne a initié un processus législatif qui vise à éliminer tous les droits de douane sur les biens industriels américains, conformément à l'accord signé le 27 juillet à Turnberry entre Donald Trump et Ursula von der Leyen. Cet accord prévoit de réduire notamment les taxes douanières sur les automobiles européennes de 27,5 à 15%. Cependant, ces concessions sur les produits américains suscitent de vives critiques en Europe et le Parlement européen pourrait éventuellement rejeter cet accord. Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire que von der Leyen a dit à Trump « d'accord, on fait comme ça », mais c'est pas dit que le Parlement va le valider. Donc ça fait pas. Et vous savez que, je le répète régulièrement ici, il y a de plus en plus de sujets qui opposent von der Leyen et le reste du Parlement. Il y a la procédure qui a été engagée de contestation devant la Cour de justice des communautés de l'Union européenne du processus SAFE dans le cadre du projet ReArm Europe parce que von der Leyen l'a fait passer selon un processus d'une sorte de 49-3 européen qui n'a pas plu au Parlement européen. Maintenant, il y a ça aussi et il risque d'y s'ajouter autre chose puisque la Commission européenne a approuvé l'accord avec le Mercosur et Marine Le Pen demandait tout à l'heure sur X au président de la République qu'il prenne l'engagement qu'il refusera d'appliquer cet accord, et le Mercosur effectivement risque de poser un nouveau problème Alors, à deux échelons, ça risque de poser un problème à l'échelon européen, naturellement, où il y a pas mal de gens qui sont contre, en particulier les Français, les agriculteurs français. Et à l'échelon français, bien sûr, mais ça aura des répercussions à l'échelon européen, parce que déjà qu'on est au bord du mouvement Bloquons tout le 10 septembre prochain, si en plus on y rajoute les agriculteurs qui sont pas contents du Mercosur, ça va finir par faire quand même beaucoup de monde simultanément. Donc là aussi, une fragilité dans le débat européen qui risque d'être concomitante à celle qu'il peut y avoir en France. Et donc, encore une fois, il risque d'y avoir un effet courroie de transmission entre la crise politique en France et l'Union européenne. C'est pas le seul endroit en Europe où il y a des problèmes, puisque lundi 1er septembre au soir, des milliers de Serbes ont encore manifesté, mais cette fois en silence dans les rues de Belgrade pour commémorer les 10 mois de l'accident tragique de Novi Sad, où l'effondrement d'un auvent en béton à la gare le 1er novembre 2024 avait tué 16 personnes, dont des enfants, ce qui a lancé tout un mouvement de contestation, notamment étudiante, contre le pouvoir, la corruption, etc. Ce premier rassemblement dans la capitale depuis les violentes manifestations d'août marque un moment clé dans le vaste mouvement de contestation qui secoue la Serbie. Il y aurait eu en 10 mois 23 000 rassemblements ou blocages recensés par la police. Mais pendant ce temps, mardi, le président serbe Aleksandar Vučić et le premier ministre slovaque Robert Fico sont arrivés en Chine pour assister en tant qu'invités au défilé militaire célébrant le 80e anniversaire de la victoire chinoise sur le Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. La cérémonie s'est déroulée mercredi sur la place Tiananmen à Pékin. Seuls dirigeants européens présents, Vučić et Fico, ont marqué l'événement en déplorant que l'Union européenne ne soit pas représentée autrement. Une élection anticipée est prévue le 23 novembre en Republika Srpska, l'entité serbe de Bosnie, pour remplacer le président destitué Milorad Dodik. Vous vous souviendrez que le 25 octobre, un référendum sur le verdict contre Milorad Dodik a été organisé, hein, puisque Dodik cherche à faire l'appel au peuple de l'entité serbe de Bosnie pour s'opposer aux autorités fédérales bosniaques. L'élection anticipée est néanmoins prévue. Et donc, Dodik a appelé au boycott de cette élection, la qualifiant de dénuée de sens et affirmant qu'il n'aura pas lieu, puisque, en fait, il pense que le référendum va le confirmer et que donc derrière, il n'y aura pas d'élection. Donc, ce scrutin, ça sera un test crucial pour l'autorité de l'État central bosnien dans un pays qui est divisé. Mais étant donné que Dodik a réussi à caler la date de son référendum un mois avant le vote prévu, c'est plutôt lui qui a la main, à mon avis, sur le problème pour l'instant. Il rappelle que il y a un gros risque régional entre Dodik et Vučić, hein, qui pourrait être un relais de l'agitation russe dans les Balkans. Et ouvrir un front sud si jamais il y avait quelque chose un peu plus au nord, par exemple du côté des Pays-Baltes. Ce mardi 2 septembre, Gazprom a annoncé, selon Reuters et les agences russes, un accord pour accroître ses exportations de gaz vers la Chine et construire un nouveau gazoduc de grande capacité. Le PDG de Gazprom, Alexei Miller, a précisé qu'un accord a été signé pour augmenter les livraisons via le gazoduc existant Power of Siberia, reliant la Sibérie orientale à la Chine, de 38 milliards à 44 milliards de mètres cubes par an. Par ailleurs, un protocole d'accord juridiquement contraignant a été conclu pour la construction du gazoduc Power of Siberia 2, qui pourrait doubler les exportations de gaz russe vers la Chine, offrant à la Russie d'importantes ressources financières à un moment où son économie est un petit peu à la peine. C'est important parce que jusqu'ici, les Chinois, ce projet, ça devait se faire il y a quelques années, au début de la guerre en Ukraine, puis c'était tombé à l'eau. D'aucuns avaient voulu interpréter ça comme un premier signe de lâchage de la Chine vis-à-vis de la Russie. C'était vraisemblablement pas le cas. Mais maintenant, la Chine a besoin d'énergie pas chère, et d'autant moins chère qu'elle aura sans doute de beaux rabais sur le gaz russe. Le Canada écarte l'offre française pour équiper sa marine royale de 12 sous-marins. Naval Group, avec ses submersibles Barracuda à propulsion conventionnelle qui avait séduit les Pays-Bas en mars, a été rejeté. C'est ce qu'a annoncé Ottawa ce mardi. Les espoirs du constructeur naval français de décrocher ce contrat de 60 milliards de dollars canadiens s'envolent. Les entreprises suédoises Saab et espagnoles Navantia ont également été écartées. Le gros morceau, d'une certaine manière, de la semaine. C'est le sommet de Tianjin, la ville de 15 millions d'habitants marquée par son passé colonial, qui a réuni les membres de l'Organisation de coopération de Shanghai. Cette édition, les 31 août et 1er septembre, s'est distinguée par la présence inédite de nombreux États observateurs, de l'Égypte à la Malaisie. Xi Jinping y a accueilli une vingtaine de dirigeants, dont Vladimir Poutine et Narendra Modi, ce dernier étant déçu par l'évolution de ses relations avec les États-Unis. Alors vous aurez vu sans doute ces images d'accueil de Xi, qui est véritablement entouré par toute une cour, dont Vladimir Poutine, mais aussi le président du Kazakhstan, il y a Loukachenko, il y a Kim Jong-un, et puis il y a des dizaines de types derrière. C'est extrêmement impressionnant, et ce qui est surtout très fort, c'est que ça évoque véritablement, encore une fois, l'intégration accrue du bloc autour de la Chine. Et ça m'a fait penser aux images qu'on a vues récemment de Donald Trump dans le bureau ovale avec les Européens dans le cadre de la discussion sur la guerre en Ukraine. Et donc, on a vraiment le sentiment qu'il y a l'Amérique et ses vassaux d'un côté, la Chine et ses vassaux de l'autre, et que tout ceci prépare une confrontation assez dure. Il y en a un qui l'a compris, c'est Donald Trump. Donald Trump qui a quand même lâché une bombe sur son réseau social Truth Social. Il a dit la chose suivante. La grande question est de savoir si le président chinois Xi évoquera l'immense soutien et le sang versé par les États-Unis pour aider la Chine à se libérer d'un envahisseur étranger très hostile. Puisque, je le rappelle, la Chine fêtait le 80e anniversaire de la victoire dans la guerre contre le Japon, guerre dans laquelle ils ont été aidés par les États-Unis naturellement. Je poursuis le post de Donald Trump. De nombreux Américains sont morts dans la quête de victoire et de gloire de la Chine. J'espère qu'ils seront honorés et commémorés à juste titre pour leur bravoure et leur sacrifice, que le président Xi et le merveilleux peuple chinois passent une journée de célébration mémorable. Veuillez transmettre mes plus chaleureuses salutations à Vladimir Poutine et à Kim Jong-un alors que vous conspirez contre les États-Unis d'Amérique. Alors là, franchement, dans le genre attaque de face, c'est extraordinaire parce qu'on est sur du Donald Trump habituel. Hein, je disais Donald Trump, c'est un peu mafieux, il parle comme les mafieux. C'est-à-dire, il dit tout le temps mon ami, à des gens qu'il déteste en fait et avec lesquels il sait qu'il peut s'entretuer du jour au lendemain. Et en Europe d'ailleurs, on croit souvent que du coup, il dit qu'il aime les gens et que c'est vraiment qu'il aime les gens, qu'il les admire. Vous avez toujours des commentateurs pour vous dire assez bêtement oui, il admire Poutine parce que non, il n'admire pas Poutine. Il passe son temps à dire mon ami parce que c'est un rival. Voilà. Et donc, on fait belle la figura, mais derrière, on est prêt à sortir les canifs, quoi. Et là, on est extrêmement là-dedans. C'est-à-dire qu'il envoie un message de salutation, voilà, en disant qu'il ne doute pas qu'eux. Alors qu'en fait, il sait très bien que les Chinois n'ont rien à foutre de célébrer les Américains. C'est pas ça le but. Au contraire, c'est de célébrer leur armée, etc. D'ailleurs, la parade l'a montré. Mais carrément, vous conspirez contre les... S'adresser à Xi, Poutine et Kim Jong-un et dire « vous conspirez contre les États-Unis d'Amérique », c'est ceux qui diront qu'il a toujours pas compris qu'il était Vladimir Poutine, à mon avis, il faudra m'expliquer ce message. Et de son côté, précisément, le Kremlin a indiqué qu'il espère que Trump ironise quand il dit que Xi conspire avec Kim et Poutine à Pékin. La présidence russe a en effet dit mercredi espérer que Trump faisait de l'ironie. Je crois que le président américain a dit non sans ironie que ces trois-là complotaient soi-disant contre les États-Unis, a déclaré Yuri Utchakov, conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, à un média d'État russe. Je tiens à préciser que personne ne complotait, personne ne tramait quoi que ce soit, a-t-il ajouté. On sait très bien quoi en penser. Et les Américains le savent aussi. Puisque de son côté, le nouveau directeur du FBI, Kash Patel, a participé au podcast de Joe Rogan pour sa première interview longue durée. La conversation, qui a duré plus de 2 heures, a abordé des sujets familiers, dysfonctionnements gouvernementaux, sécurité nationale et complot sur Internet. Mais l'élément le plus marquant a été l'affirmation de Patel selon laquelle les États-Unis n'étaient pas seulement confrontés à une crise de santé publique liée au fentanyl. Il s'agissait, selon ses propres termes, d'une guerre chimique. Patel, ancien responsable de la sécurité nationale sous Donald Trump et premier indo-américain à diriger le FBI, a présenté l'épidémie de fentanyl. Alors ça m'a amusé parce que c'est moi le parallèle que je fais tout le temps, mais je veux dire c'est un parallèle évident. Non pas comme un problème de police, mais comme une attaque mondiale et coordonnée contre les infrastructures américaines, sociales, générationnelles et institutionnelles. Avec plus de 100 000 décès par overdose en 2024 et le fentanyl désormais première cause de décès chez les Américains de 18 à 45 ans, Patel a soutenu qu'il ne s'agissait plus d'une question d'addiction. On n'entend pas parler de décès liés au fentanyl en Chine, en Inde ou en Angleterre, a-t-il déclaré à Rogan, ce n'est pas un hasard. Son argument principal est le suivant, et c'est là-dessus que je suis tout à fait d'accord avec lui. Les produits chimiques utilisés pour fabriquer le fentanyl sont fabriqués en Chine, transitent par des pays tiers dont l'Inde et le Canada et sont assemblés par des cartels mexicains. Le produit final, souvent déguisé en médicaments sur ordonnance ou même en bonbons, entre aux États-Unis par ses frontières et son système postal. Patel qualifie cela de sécurité nationale de premier plan, le plaçant au même niveau que le terrorisme ou la prolifération nucléaire. Et moi, ce que je pense, depuis un moment, c'est que la Chine effectivement fait cela consciemment, et qu'elle fait cela d'autant plus consciemment qu'elle estime avoir subi la même chose de la part des Anglais au XIXe siècle, et c'était le principe de l'opium, et des guerres de l'opium, où les Britanniques lui ont fait une guerre, c'est vrai que c'est pas beau, pour l'obliger à accepter le commerce de l'opium que les Britanniques voulaient faire chez eux. Et donc aujourd'hui, parce que pour les Chinois, il y a une totale continuité entre l'Empire britannique et l'Empire américain, aujourd'hui, les Chinois se vengent en faisant leur guerre de l'opium, leur propre guerre de l'opium, non avouée, aux États-Unis. Et je pense que c'est ce que Kash Patel a voulu dire, et je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. De leur côté, les dirigeants chinois et indiens ont affirmé que la confiance mutuelle s'est renforcée après des années de tension, notamment le long des différents frontaliers qui les a opposés. Si vous m'écoutez régulièrement, vous savez ce qu'il en est. Le président chinois Xi Jinping et le premier ministre indien Narendra Modi se sont rencontrés en marge de l'organisation de coopération de Shanghai dans la ville portuaire de Tianjin. C'était la première visite de Modi en Chine depuis 7 ans. Xi a déclaré à Modi que la Chine et l'Inde devaient être des partenaires et non des rivaux, tandis que Modi a affirmé qu'il régnait désormais une atmosphère de paix et de stabilité entre eux. Je pense que Modi peut le croire. Je maintiens que selon moi, ça ne durera pas. Que dans le conflit qui s'annonce, et qui s'annonce de plus en plus imminent, l'Inde très rapidement basculera naturellement dans le camp occidental. Elle ne sera pas du côté de la Chine, ou pas durablement. Elle sera peut-être neutre au début, mais elle finira contre la Chine. J'en suis persuadé. Et donc je suis persuadé que là, on est juste sur un réchauffement très temporaire des relations. Qui est dû notamment aux tarifs de Trump sur l'Inde. Le problème étant que les tarifs de Trump sur l'Inde, ils ne viennent pas de n'importe où. C'est pour dissuader Poutine de continuer en Ukraine. Et donc, on ne peut pas à la fois reprocher à Trump de perdre, d'éloigner l'Inde des Occidentaux et de ne rien faire contre Poutine. À un moment, il faut bien taper quelque part. Et je préciserai que pour ceux qui ne croiraient pas quand je dis que cette manœuvre contre l'Inde était effectivement dirigé contre Poutine. Il a dit ça encore à un journaliste qui était interrogé à la Maison-Blanche aujourd'hui, et quand on lui a dit qu'il faisait rien contre Poutine, il a dit « j'ai sanctionné les sanctions secondaires contre l'Inde, pour vous c'est rien ». Voilà, donc dans sa tête c'est très clair, c'est une sanction secondaire contre la Russie. Bon. Donc cette promesse tenue par rapport à ce qu'il avait commencé à indiquer en juillet sur les sanctions qu'il pourrait présenter à l'encontre de la Russie. Ce jeudi, le gouvernement taliban afghan a convoqué l'ambassadeur du Pakistan, accusant Islamabad d'avoir causé la mort de 3 civils et blessé 7 autres lors de frappes aériennes sur les provinces frontalières de Nangarhar et Khost, selon un communiqué du ministère afghan des Affaires étrangères. Vous savez qu'il a des problèmes de terroristes séparatistes qui, du Baloutchistan notamment, qui sont à l'œuvre sur le territoire pakistanais. Ça a été en particulier le cas au printemps, et qui ont leur base arrière en Afghanistan. Vendredi, la justice bangladaise a ordonné la détention provisoire de 16 individus, dont un ancien ministre de 87 ans, accusé de complot visant à renverser le gouvernement, selon la police. En août 2024, Mohamed Yunus, prix Nobel de la paix, a pris la tête, je le rappelle, d'un gouvernement intérimaire après la chute de l'ex-première ministre Sheikh Hasina, suite à des semaines d'émeutes violemment réprimées. Jeudi, 16 personnes ont été arrêtées lors d'une réunion d'une association de journalistes à Dhaka où elles ont accusé les partis politiques de violer la constitution. Des élections sont prévues pour février 2026 et je rappelle que le Bangladesh a démarré en fait sa révolution nationale en virant Sheikh Hasina, et l'instabilité actuelle est assez normale. Il faut la garder à l'esprit parce qu'on en parle très peu du Bangladesh, mais a priori il devrait avoir des poussées révolutionnaires encore, puisque dans ce cadre de... En général, c'est comme ça que ça se passe. Le schéma est toujours le même. C'est pas le seul pays où il y a de l'agitation. Depuis plusieurs semaines, l'Indonésie est secouée par des manifestations meurtrières, ce qui marque la pire crise depuis l'arrivée au pouvoir du président Prabowo Subianto en octobre 2024. Dimanche 31 août, le dirigeant de 73 ans a cherché à calmer les tensions dans un discours adressé à la nation de 283 millions d'habitants, cédant à certaines demandes comme l'annulation de la hausse controversée des indemnités parlementaires, tout en se montrant inflexible sur le plan sécuritaire, en qualifiant les émeutes et pillages de trahison et de terrorisme. Les manifestations, initialement pacifiques, avaient débuté le 25 août dernier devant le Parlement, où les étudiants et les syndicalistes ont dénoncé une allocation de logement de 50 millions de roupies, soit de 1 600 euros, accordée aux parlementaires, c'est-à-dire 10 fois le salaire minimum de la capitale. Mesure qui a indigné une population fragilisée, confrontée à la stagnation des salaires et à un fort chômage des jeunes. Ce mardi 2 septembre, une organisation locale de défense des droits humains a signalé la disparition d'au moins 20 personnes suite aux violentes manifestations, selon l'inspecteur général de la police de Jakarta. 1240 personnes ont été arrêtées dans la capitale depuis le début des troubles le 25 août. À voir si ça dure, ça pourrait être un début de révolution nationale aussi, comme au Bangladesh. Je pense que c'est le stade où est l'Indonésie. Je n'ai pas regardé la trajectoire en détail, mais il me semble qu'on est sur quelque chose comme ça depuis des décennies. Et enfin, pour terminer, au Japon, un projet de coopération avec l'Afrique, qui aurait été mal compris, a suscité une vague xénophobe au Japon, alimentée par la crainte d'une invasion migratoire. La polémique a émergé après que l'Agence japonaise de coopération internationale a désigné le 22 août, lors de la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique, quatre villes japonaises, Sanjo, Kizarazu, Imabiri et Nagai, comme Africa Hometown, pour le Ghana, le Nigeria, le Mozambique et la Tanzanie. Ce projet vise à renforcer les échanges, notamment entre jeunes, ces villes ayant accueilli les athlètes de ces pays lors des JO de Tokyo 2020. Certains ont interprété le terme « hometown » comme un programme facilitant l'installation et le travail de ressortissants africains dans ces villes, ce qui a déclenché des réactions virulentes sur les réseaux sociaux dans un pays qui est, vous le savez, peu ouvert à l'immigration. En 2024, seuls 25 000 Africains vivaient au Japon parmi 3,4 millions d'étrangers. La polémique a ravivé des stéréotypes allant de la peur d'Ebola à celle des mariages forcés dans les pays musulmans. Donc, on voit l'hypersensibilité japonaise à cette question. Mais après, on dit que ce sont les Européens qui sont racistes. Il ne faut pas oublier ça quand même. On se jette des... flagelle. Voilà pour ce que j'ai retenu, ce que j'ai considéré en tout cas comme saillant et devant être retenu pour cette semaine. À bientôt pour de nouveaux formats. Si le bulletin vous intéresse, n'hésitez pas à vous y abonner. Et ne vous laissez pas faire.